plus simple consistait encore à prendre la clé sous l'oreiller. Certainement, Clotilde finirait par s'endormir. Elle paraissait trop épuisée, elle succomberait à la fatigue. Et il ne s'agissait que d'attendre. Elles se mirent donc à épier, à rôder de la salle de travail à la chambre, aux aguets, pour savoir si les grands yeux élargis et fixes de la jeune femme ne se fermaient pas enfin. Toujours, il y en avait une qui allait voir, tandis que l'autre s'impatientait dans la salle où charbonnait une lampe. Cela dura jusqu'à près de minuit, de quart d'heure en quart d'heure. Les yeux sans fond, pleins d'ombre et d'un immense désespoir, restaient grands ouverts. Un peu avant minuit, Félicité se réinstalla dans un fauteuil, au pied du lit, résolue à ne pas quitter la place tant que sa petite fille ne dormirait pas. Elle ne la quittait plus du regard, s'irritant à remarquer qu'elle battait à peine des paupières, dans cette fixité inconsolable qui défiait le sommeil. Puis, ce fut elle, à ce jeu, qui se sentit envahie d'une somnolence. Exaspérée, elle ne put rester là davantage, et elle alla trouver de nouveau Martine. « C'est inutile, elle ne s'endormira pas !» dit-elle, la voix étouffée et tremblante. « Il faut imaginer autre chose !» L'idée lui était bienvenue déjà de forcer l'armoire. Mais les vieux bâtis de chêne semblaient inébranlables. Les vieilles ferrures tenaient solidement. Avec quoi briser la serrure? Sans compter qu'on ferait un bruit terrible et que ce bruit s'entendrait certainement de la chambre voisine. Elle s'était cependant plantée devant les portes épaisses, les tâtait des doigts, cherchait les places faibles. Si j'avais un outil! Martine, moins passionnée, l'interrompit en se récriant. Oh non, non, madame, on nous surprendrait! Attendez, peut-être que mademoiselle dort! Elle retourna dans la chambre, sur la pointe des pieds, et revint tout de suite. Mais oui, elle dort! Ses yeux sont fermés, elle ne bouge plus! Alors, toutes deux allèrent la voir, retenant leur souffle, évitant le moindre craquement du parquet, avec des soins infinis. Clotilde, en effet, venait de s'endormir, et son anéantissement paraissait tel que les deux vieilles femmes s'enhardissaient. Mais elle craignait pourtant de l'éveiller si elle la frôlait, car elle avait sa chaise placée contre le lit même. Et c'était aussi un acte sacrilège et terrible dont l'épouvante les prenait que de glisser la main sous l'oreiller du mort et de le voler. N'allait-il pas falloir le déranger dans son repos? Ne remuerait-il pas sous la secousse? Cela les faisait pâlir. Félicité, déjà, s'était avancée, le bras tendu, mais elle recula. « Je suis trop petite !» bégaya-t-elle. « Essayez donc, vous, Martine !» La servante, à son tour, s'approcha du lit. Elle fut prise d'un tel tremblement qu'elle dut, elle aussi, revenir en arrière pour ne pas tomber. « Non, non, je ne puis pas. Il me semble que monsieur va ouvrir les yeux. » Et, frissonnante, éperdue, elles restèrent encore un instant dans la chambre, pleine du grand silence et de la majesté de la mort, en face de Pascal immobile à jamais et de Clotilde anéantie sous l'écrasement de son veuvage. La noblesse d'une haute vie de travail leur apparut peut-être sur cette tête muette qui, de tout son poids, gardait son œuvre. La flamme des cierges brûlait, très pâle. Une terreur sacrée passait qui les chassa. Félicité, si brave, qui n'avait autrefois reculé devant rien, pas même devant le sang, s'enfuyait comme poursuivie. « Venez, venez, Martine, nous trouverons autre chose. Nous allons chercher un outil. » Dans la salle, elles respirèrent. La servante se souvint alors que la clé du secrétaire devait être sur la table de nuit de monsieur, où elle l'avait aperçue la veille au moment de la crise. elles y allèrent voir. La mère n'eut aucun scrupule, ouvrit le meuble. Mais elle n'y trouva que les 5 000 francs qu'elle laissa au fond du tiroir, car l'argent ne la préoccupait guère. Vainement, elle chercha l'arbre généalogique qu'elle savait là d'habitude. Elle aurait si volontiers commencé par lui son œuvre de destruction. Il était resté sur le bureau du docteur, dans la salle, et elle ne devait pas même l'y découvrir, au milieu de la fièvre de passion qui lui faisait fouiller les meubles fermés, sans lui laisser le calme lucide de procéder méthodiquement autour d'elle. Son désir la ramena. Elle revint se planter devant l'armoire, la mesurant, l'enveloppant d'un regard ardent de conquête. Malgré sa petite taille, malgré ses 80 ans passés, elle se dressait dans une activité, une dépense de force extraordinaire. « Ah ! » répéta-t-elle, « si j'avais un outil !» Et elle cherchait de nouveau la lézarde du colosse, la fente où elle allait introduire les doigts pour le faire éclater. Elle imaginait des plans d'assaut, elle rêvait des violences, puis elle retombait à la ruse, à quelque traîtrise qui lui ouvrirait les battants, rien qu'en soufflant dessus. Brusquement, son regard brilla, elle avait trouvé. « Dites donc, Martine, il y a un crochet qui retient le premier battant. »« Oui, madame, il s'accroche dans un piton, en dessus de la planche du milieu. » Tenez, il se trouve à la hauteur de cette moulure à peu près. Félicité eut un geste de victoire certaine. Vous avez bien une vrille, une grosse vrille. Donnez-moi une vrille. Vivement, Martine descendit à sa cuisine et rapporta l'outil demandé. Comme ça, voyez-vous, nous ne ferons pas de bruit, reprit la vieille dame en se mettant à la besogne. Avec une singulière énergie qu'on n'aurait pas soupçonnée à ses petites mains desséchées par l'âge, elle planta la vrille. Elle fit un premier tour à la hauteur désignée par la servante. Mais elle était trop bas. Elle sentit que la pointe s'enfonçait ensuite dans la planche. Une seconde percée l'amena droit sur le fer du crochet. Cette fois, c'était trop direct. Et elle multiplia les trous, à droite et à gauche, jusqu'à ce que, se servant de la vrille elle-même, elle put enfin pousser le crochet, le chasser du piton. Le pêne de la serrure glissa, les deux battants s'ouvrirent.